Vous écoutez
RMC. RMC, 19h30, 20h30, Bartoli Time.
Benoît Boutron, Marion Bartoli.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission incontournable pour tous les passionnés de sport que vous êtes. Mes chers auditeurs, c'est bien évidemment Bartoli Time. Comme à l'accoutumée, vous avez pris l'habitude désormais tous les dimanches soirs à partir de 19h30. Nous revenons sur l'actualité sportive majeure qui a marqué le week-end avec des débats engagés, des invités exceptionnels et puis toujours, parce que j'y tiens, oui, la petite touche d'humour qui la caractérise. Ce soir, encore une fois, les amis, nous avons concocté un programme aux petits oignons, mais fait pour vous, mes chers auditeurs. Nous aurons Jeff Poirot, un des héros de cette victoire absolument sensationnelle de l'UBB face aux Toulousains, et puis Gaël Clichy, un ancien Gunners, qui va nous expliquer cette semaine historique, éventuellement pour le PSG, qui peut se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. Et puis à partir de 20h, attention, alors là, ça ne rigole vraiment plus, parce que Jean-Louis Tour, oui, Jean-Louis va être avec nous pour faire un gros débat sur l'Olympique de Marseille. Jeannot également sera là, Flo Germain pour l'actualité marseillaise. Bref, un programme comme rarement vous avez vu dans Bartoli Time. Et c'est le moment où, bien évidemment, j'accueille avec grand plaisir Benoît Boutron. Comment vas-tu, Benoît ?
Salut Marion, ravi de te retrouver. Magnifique programme, beaucoup d'invités, de l'info, des petites blagues, tout ce que vous aimez. Tiens, je vous signale juste que ça vient de tomber. Le Bayern Munich est champion d'Allemagne, 34e titre de champion, grâce au nul concédé par Leverkusen face à Leipzig. Enfin, un titre dans la carrière d'Harry Kane. Ça y est, il a gagné quelque chose d'incroyable.
Oui.
Et puis, je vous rappelle qu'il y a en ce moment l'expérience RMC autour de cette demi-finale retour de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal. Si vous souhaitez aller assister au match mercredi soir, vivre l'expérience RMC, c'est venir assister à Rotten sans flamme, vos places pour le match, ensuite le débrief dans l'after. Et bien vous écoutez, vous êtes bien attentif, et dès que cette alerte va retentir, vous aurez 5 minutes pour envoyer PSG au 732-16. PSG.
Jouez, les amis. Ne vous dites pas que ça n'arrive qu'aux autres.
Et ça, c'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner. On y va sur le rugby. L'UBB qui s'est rebiffé cet après-midi.
RMC. La une de Bartoli Time.
Première finale de Champions Cup dans l'histoire du club, victoire face à la bête noire, le Stade Toulousain. L'UBB a fait un magnifique match cet après-midi, victoire 35-18. Une seule mauvaise nouvelle, c'est la blessure de Damien Penaud, touché à la cheville gauche, qui était en larmes au coup de sifflet final. L'Union Bordeaux-Bègles va affronter Northampton à Cardiff en finale le 24 mai. On débriefe cette victoire historique avec le capitaine bordeaux-bègles, Jefferson Poirot, qui est l'invité de Bartoli Time.
Absolument, Jefferson, tout d'abord, félicitations, c'est un exploit monumental pour l'UBB qui se qualifie pour la première finale de Champions Cup de son histoire, et vous défierez Northampton le 24 mai à Cardiff. Est-ce que déjà tu peux nous décrire les premières sensations après ce match et cet exploit réalisé pour ton club ?
Bonsoir à tous, mais d'abord c'est beaucoup de joie, ça paraît presque voilà, irréel, enfin, surtout pour moi qui ai vécu beaucoup d'étapes de ce club, donc c'est vrai que c'est beaucoup de joie. Après, comme je le disais, on doit vite revenir à la réalité, parce que on a des expériences proches qui nous montrent que mais chaque détail compte, et on n'a pas le temps de rester sur un petit nuage.
Qu'est-ce qui fait la différence cet après-midi sur le match que vous avez fait ? Il y a eu beaucoup d'engagement, c'est l'efficacité, c'est ce qu'a dit en quelques mots Romain Tamac à l'issue de la rencontre. Il a dit finalement il y avait assez peu de différence et eux ont été très efficaces. Toi aussi tu analyses le match comme ça ?
Ouais, on a été très efficace. Il me semble aussi que sur le combat du sol, on a été assez bon face à une équipe qui embête beaucoup ses adversaires, avec des joueurs identifiés comme Jack Willis, Julien Marchand. C'est quand même des très très gros gratteurs de notre championnat et du niveau international. Donc c'est vrai qu'on avait beaucoup ciblé ça, la vitesse de nos recs, et ça nous a permis de pouvoir mettre notre jeu en place et de pouvoir concrétiser nos occasions.
Jeff, vous êtes quand même un peu pas épargné à l'UBB depuis le début de saison. Il y a des critiques, notamment sur les avants. On vous attendait au tournant. Il y a eu la défaite de la semaine dernière contre La Rochelle. Bon, je crois que là, vous avez répondu à tout le monde, quoi. Le signal envoyé, il est quand même assez fort.
Ouais. Après, comme je le disais, nous, on travaille un peu dans l'ombre de nos trois quarts. Mais voilà, quand il y a des matchs importants, il me semble qu'on a toujours répondu présent. C'est sûr qu'on manque peut-être un peu de régularité. On est peut-être un peu dans l'ombre de nos galactiques, mais il n'y a pas de grande équipe sans bons avants. Donc nous, on est bien aussi dans cette petite place de d'outsider, des plus mauvais avants du haut tableau. Donc on se complaît là-dedans, et puis on laisse parler les gens. Et puis peut-être que c'est aussi un petit avantage pour nous, parce que sur des matchs, on nous prend peut-être moins au sérieux. et on est capable de répondre présent.
Jefferson Poirot, le capitaine de l'Union Bordeaux-Bègles, qualifié pour la finale de la Champions Cup, et l'invité de Bartoli Time, Marion.
Jeff, vous êtes maintenant sur une troisième victoire en trois confrontations face à Toulouse cette saison, alors que Toulouse avait été votre bourreau en juin dernier en finale du championnat. Cette fois-ci, bien sûr, c'était aussi un match à élimination directe. Qu'est-ce qui a fait la différence finalement entre cette finale de championnat du top 14 l'année dernière et là ces trois confrontations où vous les battez à chaque fois? La différence s'est faite sur le niveau de jeu, sur la manière d'aborder les matchs?
Ouais, je pense qu'on a, honnêtement, on a démarré cette saison en tirant beaucoup de leçons de ce qui s'était passé l'an dernier sur la finale. Quand on perd de cette manière sur le match de la saison, c'est vrai que ça marque un peu l'équipe au fer rouge et on en a tiré des leçons. Et voilà. Autant en championnat, c'est un peu différent parce que les matchs de championnat, bah, c'est des matchs qui reviennent tous les week-ends. Les équipes sont peut-être pas au même niveau que sur des phases finales, mais c'est vrai que gagner le Stade Toulousain en mode phase finale, c'est une autre étape.
Le bémol, Jeff, c'est de la sortie sur blessure de Damien Penaud. On l'a vu en larmes au coup de sifflet final. Il est touché à la cheville gauche. Est-ce que tu as des infos à nous donner? Est-ce que tu en sais un peu plus, toi?
Non, j'ai pas beaucoup d'infos. Tout ce que je sais, c'est qu'il avait une douleur à la cheville. J'ai pas beaucoup d'infos pour l'instant. Je pense qu'il va passer les examens demain, du coup lundi. Et voilà. Après, on sait que c'est un grand joueur. Et généralement, les grands joueurs, ils vont très vite à récupérer.
Donc, on vous le souhaite.
Je compte sur lui.
Jeff, vous êtes programmé. On sent que ce club-là, il est quand même programmé pour aller chercher un titre. Cette demi-finale, c'est pas une finalité.
Non, c'est pas une finalité, mais comme je l'ai dit, on doit apprendre très vite de ce qui s'est passé l'an dernier. L'an dernier, je pense qu'après la demi en top 14, on était tout heureux d'atteindre pour la première fois cette finale de championnat. Et au final, on s'est planté. Donc voilà, il faut garder quand même beaucoup d'humilité. Je pense que cette finale de top 14 l'an dernier nous a vraiment beaucoup servi. On a beaucoup appris de ça. Donc voilà, à nous de compter chaque détail, d'être bon tout au long de ces trois semaines là, de aussi être bon en top 14, parce que ça, voilà, c'est les matchs aussi de top 14 qui nous prépareront à faire un grand match contre Northampton. Il faut qu'on arrive en conscience, parce que on a vu que Northampton, c'était quand même vraiment du sérieux, le match qu'ils ont fait au Leinster. Je pense que personne s'attendait à ça, et voilà, ils sont là quand même.
Ça sera la première finale de Champions Cup, je l'ai dit, pour ton club, pour votre club, pour aussi situer l'exploit que vous avez réalisé aujourd'hui. Le Stade Toulousain n'avait jamais été battu dans un match couperé de Coupe d'Europe contre un autre club français en 15 confrontations. Donc ça remet encore une fois, encore plus en valeur votre exploit réalisé aujourd'hui. Vous êtes toujours invaincu aussi dans cette compétition cette saison. Tu l'as dit, c'est une finale, il y a toujours une pression supplémentaire, il y a peut-être aussi parfois une difficulté à les appréhender. Qu'est-ce qui, pour vous, va faire la différence entre la préparation de maintenant jusqu'au 24 mai arrivé à Cardiff?
Ce qui va faire la différence, c'est, je pense, aussi un peu de fraîcheur, hein, parce qu'on va affronter une équipe qui est dans un championnat qui est quand même bien différent d'une autre, où il n'y a pas de montée-descente, où il n'y a pas vraiment de... Voilà, eux, ils sont dans une phase, je crois, où ils sont 7 ou 8e, donc ils sont un peu dans le ventre mou de leur championnat, donc j'imagine qu'ils vont bien gérer cette période. Nous, on est à la bagarre pour la deuxième place sur le top 14, et nous, c'est très très important de réussir à être dans les deux premiers, donc... Voilà, il va y avoir une bonne gestion de la fraîcheur de l'effectif à avoir. On a quand même des mecs qui ont beaucoup joué cette saison, hein, des 24, 25 matchs. Ce qu'il faut savoir, c'est que Northampton, leur championnat, il y a 18 journées. Donc il y a quand même une grosse différence, hein, là-dessus. Donc voilà. Je pense que ça, c'est la gestion de la fraîcheur de l'effectif va être très importante.
Jeff, un mot pour terminer sur ton cas personnel. Toi, t'es un historique de cette Union Bordeaux-Bègles. T'es arrivé en 2012 au club.
C'est le patron,
Jeff, t'es le capitaine.
En plus, il est à côté de moi, donc je peux pas dire, autre chose, parce que sinon, il va me faire mal.
Jeff, t'as connu des hauts et des bas. Là, tu vas disputer une deuxième finale en un an. Vous étiez en finale du top 14 l'an dernier, finale de Champions Cup cette année, peut-être même encore un beau parcours en top 14. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'UBB est en train de changer de dimension petit à petit encore?
Ouais, ça progresse, hein, honnêtement. On a un club qui s'en donne les moyens depuis plusieurs années. Voilà, honnêtement, je suis témoin de tout ce qui s'est passé. Ça fait 13 ans que je suis au club, donc depuis mon arrivée, où on avait une salle de muscu où le plafond était à même pas 2 mètres, dans une salle avec des barreaux, jusqu'à aujourd'hui le centre d'entraînement qu'on a, la qualité du staff qu'on a, les conditions dans lesquelles on est sont incroyables. Donc le club s'en donne vraiment les moyens, la qualité des joueurs aussi, hein, parce que pour gagner des titres ou des matchs comme ça, en tout cas il faut avoir les meilleurs, et je pense que sur la scène internationale ils l'ont démontré aussi, donc c'est vrai que Voilà, tout ce chemin qui a été fait est assez incroyable et aujourd'hui on commence à récolter aussi les fruits de tout ce travail.
Merci Jeff. Bon, rendez-vous
tu
le 24 mai. À Cardiff.
Bonne chance.
Pour battre les Anglais, ça fait toujours du bien de battre les Anglais. Northampton.
Oui, ça fait toujours plaisir de battre les Roseville.
Merci Jeff.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Au revoir.
19h42 sur RMC, un grand merci à Jefferson Poirot et à Nicolas Paul Orsi qui commentait le match et qui nous a permis d'interviewer comme ça Jeff. Et puis dans un instant, encore un invité dans Bartoli Time. On va se projeter sur le grand rendez-vous de la semaine prochaine, la demi-finale retour de Ligue des Champions, PSG-Arsenal. On va décortiquer le jeu des Gunners avec une légende d'Arsenal. Gaël Clichy sera avec nous. À tout de suite sur RMC.
RMC 19h30, 20h30, Bartoli Time.
Benoît Boutron, Marion Bartoli.
19h45, vous êtes bien dans Bartoli Time sur RMC. Nous allons revenir sur une semaine peut-être cruciale dans l'histoire du Paris Saint-Germain, dans l'histoire du foot français aussi, parce qu'éventuellement le PSG peut se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. Nous allons analyser, décortiquer tout ça avec un ancien gunner. C'est quelqu'un qui a joué 8 ans à Arsenal, qui connaît ce club et cette équipe par cœur. N'est-ce pas Benoît ? C'est Gaël Clichy.
Gaël Clichy avec nous dans quelques secondes. Dans un quart d'heure, on lance l'immense soirée foot qui vous attend. Lille Olympique de Marseille, 32e journée de Ligue 1. Est-ce que Roberto De Zerbi joue sa crédibilité sur ce choc dans la course à la Ligue des Champions, 32-16, pour participer avec nous. Mais tu l'as dit Marion, Paris doit terminer le travail mercredi soir, la demi-retour de Ligue des Champions face à Arsenal, victoire 1-0 mardi sur le match aller. Avantage précieux, mais attention, parce que évidemment rien n'est fait. On va en parler dans un instant avec Gaël. L'incertitude concerne Ousmane Dembélé, buteur à l'aller. On va en parler avec Valentin Jamin de la cellule foot d'RMC. Salut Valentin.
Bonjour à toutes et à tous.
Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, à 3 jours de ce match crucial dans l'histoire du PSG? Est-ce que Dembélé pourra jouer cette demi-retour?
Alors, on ne le sait pas encore, mais le PSG est optimiste concernant sa récupération après son étirement musculaire des ischio-jambiers de la cuisse droite. C'est la nature de sa blessure. Dembélé s'est entraîné en salle encore aujourd'hui. Il était évidemment préservé hier contre Strasbourg et donc Paris confirmait déjà en début de week-end que sa blessure, je cite, évoluait favorablement. Demain, il y a un retour à l'entraînement collectif. Alors, Dembélé en sera-t-il ? C'est toute la question. C'est possible, mais rien n'est sûr. En tout cas, le club voilà, laisse filtrer quand même de l'optimisme concernant Ousmane Dembélé. Un autre joueur, Kanginli, lui, devrait en revanche être préservé car il a été touché contre Strasbourg. Bon, c'est un peu moins grave.
Mais moins inquiet pour Kanginli.
Oui.
Pas pour le sujet qui nous préoccupe.
Un peu moins crucial.
Merci Valentin. Toutes les infos à retrouver, bien évidemment, sur rmcsport.fr. 19h46. Sur RMC, invité de Bartoli Time, une légende d'Arsenal, 8 saisons sous le maillot des Gunners, également entraîneur adjoint de l'équipe de France Espoir. Gaël Clichy est l'invité de Bartoli Time, Marion.
Absolument, d'ailleurs je le remercie Gaël d'avoir pris le temps parce que je sais qu'il est extrêmement occupé, il est entre Londres, entre Lille, entre de partout. Donc merci beaucoup Gaël de prendre le temps d'être avec nous ce soir et j'aimerais vraiment avoir tes lumières sur cette demi-finale d'abord aller qui s'est passée bien évidemment à Arsenal avec cette défaite d'Arsenal. Est-ce que tu as été impressionné par le PSG ou plutôt déçu par ton ancienne équipe? Comment tu analyses ce match aller de demi-finale de Ligue des Champions?
Ouais, c'est une question pertinente. Impressionné par Paris, non, parce qu'en fait, on se rend compte que Luis Enrique, c'est quand on regarde son histoire, c'est un monsieur qui n'a pas peur de prendre des décisions assez fortes. C'est peut-être le seul entraîneur qui a réussi à sortir Messi à Barcelone, ou en tout cas qui a essayé. Donc voilà, aujourd'hui, on voit une équipe qui est en totale maîtrise et contrôle de sa saison. Mais il y a quelques mois en arrière, on a perdu, enfin le PSG a perdu Sergio Ramos, Messi, Mbappé et Neymar. Et même si aujourd'hui, on peut dire que c'était évident, c'est jamais évident de perdre de tels joueurs. Donc non, chapeau à lui pour ce qu'il fait. Donc pas surpris du tout. Déçu d'Arsenal, oui, parce que je pense qu'ils peuvent toujours donner un peu plus. Ils ont été un petit peu passif à mon goût, mais une équipe comme Paris, il faut vraiment en imposer, il faut vraiment leur en mettre dans le visage pour être sûr qu'on peut faire quelque chose, parce qu'ils sont vraiment conquérants, ils sont très bons dans la maîtrise du ballon, et puis hors possession, c'est une équipe aussi qui bouge très bien ensemble. Donc un petit peu déçu d'Arsenal, mais vraiment, je pense que Paris, pardon, sur le match a été très très bon. Et ce qui est fou, c'est que je pense que je peux dire qu'ils ont encore une marge de progression, quoi. Donc ouais, franchement, la première partie c'était intéressant.
Gaël, il y a une différence aussi entre cette équipe d'Arsenal et cette équipe parisienne, c'est peut-être l'expérience européenne. Le PSG avait déjà disputé une demi-finale de Ligue des Champions l'an passé face à Dortmund. Arsenal a moins d'expérience de ces grands rendez-vous européens. Ça aussi, ça fait la différence, toi qui as une longue carrière en Angleterre avec Arsenal et City. Ça s'appréhende, les grands rendez-vous, hein?
Non, je pense que ça s'appréhende. Bien sûr que l'expérience joue, mais pour le coup, j'ai envie de dire que ce qui peut contrebalancer un petit peu ces mots, c'est que Arsenal, ils passent quand même à côté de deux très belles saisons où ils ont eu une compétition très dure avec Manchester City, et que quelque part, en fait, c'est le même groupe qui vit depuis quelque temps, et on peut se demander si à un moment donné, il n'y a pas un petit manque dans la tête pour aller chercher quelque chose. Je les ai vus hier jouer contre Bournemouth, et on sent une équipe un petit peu fatiguée. Alors c'est une fatigue physique, bien sûr, mais c'est aussi une fatigue mentale, parce que comme on le sait, un joueur qui était extraordinaire il y a 3 ans, aujourd'hui il a 3 ans de plus, et finalement on ne sait pas comment le joueur vieillit. Donc sans dire que c'est une équipe vieillissante, c'est pas ça du tout, mais on sent qu'effectivement mentalement et physiquement c'est un peu plus difficile. Donc l'expérience peut jouer, mais je pense que pour ce match dans quelques jours, il va falloir que ça soit un très grand Arsenal, très conquérant, et surtout qui nous offre quelque chose qu'on a pu voir sur les années passées, où ils allaient chercher Manchester City, qui à l'époque, en tout cas il y a 2-3 ans, était la meilleure équipe d'Europe, en n'ayant pas peur de laisser du 1 contre 1 derrière, en rajoutant des joueurs dans le cœur du jeu, et surtout en voulant prendre le ballon et la possession, parce que les équipes qui gagnent les trophées, ou en tout cas qui se donnent la chance d'aller gagner les trophées, c'est les équipes qui dominent, et sur cette première partie, ils n'ont pas dominé le PSG, donc il va falloir qu'ils soient encore un peu meilleurs et qu'ils élèvent pas mal leur niveau de jeu.
Gaël, pour étayer ton propos, notamment sur le fait que peut-être certains cadres sont émoussés au vu d'une saison extrêmement longue, et on sait qu'en Angleterre, les matchs sont très intenses en première ligue, certains cadres d'Arsenal, notamment je pense à Odegaard ou Saka, sont passés à côté de leur match. Est-ce que tu penses que c'est une fatigue due à l'accumulation, ou est-ce que tu crois que c'était aussi parce que il y a eu une pression imposée par le PSG qui sont pas arrivés à répondre?
Je pense que c'est tout d'abord une pression imposée par les Parisiens qui a été peut-être qui a pris les Gunners un petit peu de court. Après, on parle de deux joueurs qui sont plus qu'importants au sein du collectif d'Arsenal. Et ces deux joueurs, si on se souvient, qu'il y a quelques semaines, étaient toujours blessés. Saka revient d'une période de 2-3 mois, voire 3 mois et demi, où il a été blessé, une blessure assez, assez importante. Donc il faut du temps pour revenir dans le rythme. Et puis Odegaard, depuis qu'il a eu sa longue blessure aussi, il a eu du mal à revenir. Donc quand on dépend énormément de deux joueurs comme ça, aussi importants au sein d'un groupe, si ces deux joueurs-là ne performent pas, forcément on a un manque, et un gros manque. Et puis après, on peut parler aussi de Gabriel qui derrière, quand même, avec Saliba, formait une paire assez incroyable. Donc voilà, on peut toujours se cacher, parce qu'en fait on a vu des équipes déjà performer avec des joueurs blessés ou des joueurs suspendus, mais c'est vrai que ça plus ça donne un avantage assez considérable au PSG, quoi.
Gaël Clichy, légende d'Arsenal, 8 saisons passées sous le maillot des Gunners, c'est l'invité de Bartoli Time. Gaël qui est également entraîneur adjoint de l'équipe de France Espoir, hein. Il était là, lui, dans le tournoi olympique jusqu'à cette finale magnifique l'été dernier, à côté de Thierry Henry, bien évidemment. On se projette un peu sur mercredi soir, cette demi-finale retour, l'espoir pour les supporters des Gunners, c'est un retour important. Tu parlais des joueurs cadres, Gaël. C'est le retour de Thomas Partey au milieu de terrain. Est-ce que ça peut changer beaucoup de choses? Est-ce qu'Arsenal peut reprendre un peu de domination dans ce secteur de jeu, à ton avis, avec le retour de Partey?
Ben, j'ai vu moi Partey revenir contre Bournemouth, et pour le coup ils ont aussi perdu, et ils ont été très moyens. Donc en fait malheureusement pour nous joueurs, rares sont les joueurs qui en fait font une différence énorme, des Ronaldo, des Messi, des Benzema. Forcément quand on les a, on est toujours meilleur. Je dis pas que Partey n'est pas un bon joueur, mais je ne pense pas que ça soit le joueur qui va faire une performance qui va révéler et qui va aider les Gunners. Maintenant c'est sûr que ça ajoute un petit peu de stabilité au sein du milieu d'Arsenal, mais encore une fois, je pense que au-delà du joueur, je pense que c'est vraiment l'effectif parisien d'Arsenal qui va devoir élever son niveau, que ça soit de la concentration, que ça soit de l'envie, que ça soit du courage, parce que quand on les a vus jouer hier avec tout ce que je viens de citer qui était très bas, on se dit que dans un jour, même à 60%, 70%, on les voit mal aller faire changer le résultat. Donc voilà, je pense que au-delà de Partey, il va falloir une performance collective, que ça soit sur les coups de pied arrêtés, que ça soit sur les phases de transition, que ça soit sur les phases de possession. Il va falloir tout simplement qu'il soit le Arsenal d'il y a 12-15 mois, parce que sinon forcément en 90 minutes on n'est pas à l'abri de voir un résultat positif, parce que c'est ce qu'on aime dans le foot, mais vraiment quand on regarde les performances sur les dernières semaines et les performances du PSG, on se dit que dans un bon jour il n'y a pas vraiment de chance pour Arsenal d'aller chercher quelque chose.
Alors un élément important côté parisien, c'est qu'Ousmane Dembélé, qui a été buteur à l'Emirates Stadium, est incertain pour le match retour. Alors on a connu deux Ousmane Dembélé, finalement Ousmane Dembélé ou tout le monde se moquait un peu de lui en disant qu'il cassait le stade plutôt que casser les cages. Et puis un Ousmane Dembélé qui marche sur l'eau depuis le début de la saison et qui est quasiment buteur à chaque match, ou en tout cas sur des matchs très importants. Est-ce que ça change tout pour Paris et le PSG s'il n'est pas aligné sur le match retour, Gaël?
Je suis d'accord, Marion. Et en fait, j'ai cité Benzema, j'ai cité Ronaldo, j'ai cité Messi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'impact et l'emprise que Dembélé peut avoir au sein du PSG, c'est à ce niveau-là, quoi. C'est vraiment un joueur qui fait la différence. Et même si j'entends ce que tu peux dire, où les gens pouvaient se moquer de lui, pour moi, ça a toujours été un joueur exceptionnel. Il y a de très rares sont les joueurs qui arrivent à faire les différences comme il fait déjà depuis très longtemps. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est un peu plus décisif dans un rôle un peu plus axial. Mais oui, effectivement, la performance de Dembélé au sein de cette équipe peut faire changer et évoluer le score. Donc, pour les Parisiens, il faut espérer qu'il soit là, même s'il est là amoindri. C'est des joueurs qui, de par leur qualité technique et leur intelligence dans le positionnement en possession, peuvent faire très très mal aux équipes adverses. Donc, voilà, Paris va compter sur lui. Ils l'ont ménagé sur les derniers jours. Et je suis presque sûr que même un petit peu à Moshé, il sera présent s'il peut être sur le terrain, parce que c'est un atout plus que valide et important pour le PSG.
Gaël Clichy, ancien joueur d'Arsenal, qui est confiant pour Paris, qui est inquiet pour son ancien club, pour les Gunners. Le dernier motif d'espoir pour Arsenal, Gaël, ce sont ces fameux coups de pied arrêtés. On a vu que ça a été très chaud à l'aller. Il y a eu un but refusé pour un hors-jeu très limite. C'est là-dessus que doit s'appuyer Arsenal, tout faire pour obtenir des coups de pied arrêtés bien placés et pousser les Parisiens à la faute.
Non, là j'essaie d'être le plus objectif possible et je pense que vraiment Arsenal a les moyens d'aller chercher quelque chose au-delà des coups de pied arrêtés. Je pense que s'ils arrivent à rentrer dans le mode un petit peu qu'on les a vu, un mode conquérant où quelque part on n'a pas peur de faire cette erreur, qu'on n'a pas peur de prendre ce but, on est déjà à 1-0. Donc je pense que si on a envie d'être vers l'avant et d'aller mettre un petit peu la pression, d'aller chahuter un petit peu les sorties de balles du Paris Saint-Germain, de prendre un peu de risque et de laisser du 1 contre 1, je pense qu'Arsenal peut faire quelque chose. Après, les coups de pied arrêtés offensifs, on sait que c'est quelque chose de très important et de très performant au sein de l'équipe. Maintenant, il y a aussi les coups de pied arrêtés contre, défensifs, et on a ça pu le voir ce week-end, raison. Hier, où ils prennent 2 buts. Donc ouais. Voilà, hier, on avait fait une petite statistique quand j'ai présenté le match à Sky. C'est l'équipe qui concède le plus de buts sur coups de pied arrêtés, et ils sont à 48%. Donc en fait, voilà, j'ai envie de dire, on peut voir, le match comme on a envie de le voir, mais oui, il y a des atouts. Moi, je pense qu'au-delà des coups de pied arrêtés, il faut qu'on arrive à voir un Arsenal qu'on a déjà vu, qu'on aime voir, parce que c'est une équipe très performante quand ils sont vers l'avant et quand ils n'ont pas peur d'envoyer du monde vers l'avant et de mettre la pression. Un peu comme le PSG joue aujourd'hui, en fait. Les équipes qui veulent aller chercher quelque chose doivent prendre des risques maîtrisés, contrôlés, mais on doit pouvoir sortir et faire mal à l'adversaire. S'ils arrivent à faire ça sur une mi-temps, en tout cas, je pense qu'ils ont des chances de faire quelque chose. Mais si on s'assoit sur le match d'hier et puis le match aller contre le PSG, forcément ça va être compliqué.
Gaël, merci, c'était passionnant de t'écouter, hein. Marion, là, c'était super d'avoir
gagné. Absolument. Moi je me dis quand même qu'on est passé d'Ousmane Dembélé qui provoque un pénalty contre l'Argentine et que Didier le sort au bout de 40e minute, et Donnarumma qui passe à côté des ballons dans les cages, à d'un coup un gardien qui arrête tout et Dembélé qui met des buts à chaque match. Donc je me dis qu'il y a peut-être un entre-deux et qu'on va peut-être retrouver un PSG, on va dire, un peu plus normal. Mais bon, on verra bien. En tout cas, moi, j'attends un pronostic du spécialiste, parce que c'est Gaël le spécialiste, et pas moi. Donc, un petit pronostic, Gaël. Allez, engage-toi.
Ouais, mais tu me mets dans la difficulté. C'est...
Un petit pronostic, écoute-moi. Quand je commence le tennis, on me demande toujours un pronostic. Ah ouais. Il faut un pronostic. Eh
oui,
voilà.
Ouais, je vais dire match nul je vais faire match nul et du coup Paris passe par rapport à
match. Il est bon, il est malin en plus, Gaël Clichy.
Bravo
Gaël.
Il peut pas perdre.
Merci Gaël d'avoir été avec nous. Bonne soirée à toi et bon
merci
match mercredi.
Bonne soirée, ouais. Merci.
19h57 sur RMC. Un grand merci à Gaël Clichy qui s'est rendu disponible. PSG Arsenal, c'est mercredi soir sur RMC. Et c'est le moment. Eh oui, 19h58.
Allez-y les amis, prenez votre téléphone, envoyez.
Vous avez jusqu'à 20h03 pour envoyer PSG par SMS au 732-16. Vous pourrez peut-être remporter l'expérience RMC, vous assister au show d'RMC, Rotten sans flamme, l'after, la libre antenne. Et surtout, vous allez au parc avec la personne de votre choix, PSG par SMS au 732-16. Dans un instant, Marion, on va lancer ce Lille Olympique de Marseille, la grande soirée foot qui nous attend à la fin de la 32e journée de Ligue 1. Ce match avec beaucoup de pression dans la course à la Ligue des Champions. A tout de suite sur RMC.
RMC, 19h30, 20h30, Bartoli Time.
Benoît Boutron, Marion Bartoli.
20h01 sur RMC, Bartoli Time jusqu'à 20h30, c'est votre rendez-vous le dimanche soir, les invités qui font l'actualité, les débats enflammés et évidemment la pointe d'humour de Mario Bartoli qu'on a retrouvé. T'es là, oui. Marion, tu me fais peur.
Mais ça a coupé justement, je vais reprendre l'antenne, écoute. Absolument, c'est le moment encore une fois, comme d'habitude, vous avez pris l'habitude, je vais m'écharper. Ouais. Avec Jean-Louis, parce que je sens qu'on va pas être d'accord. J'ai un pressentiment. Mais on va voir.
C'est la magnifique affiche, la 32e journée de Ligue 1 qui va se conclure sur ce très beau Lille Olympique de Marseille. Jean-Louis Tour au stade Pierre Mauroy. Salut Jean-Louis.
Salut tout le monde. Salut Marion.
À tes côtés Jean-Louis.
Ça va mon Jean-Louis?
Oui.
Jeannot Rességuier, Jean Baumel. Salut
bon
à vous deux.
Bonsoir tout le monde.
Salut à tous.
La fine équipe.
Et là, c'est l'affiche qu'on attend depuis le début de la semaine. L'affiche de cette 32e journée. Marseille, 3e au coup d'envoi de ce match, se déplace à Lille, chez le 6e de Ligue 1. 56 points. Celui qui gagne ce soir remontera à la 2e place du classement. Jeannot, Djibo, est-ce que vous avez les compos sous les yeux
d'ailleurs?
Oui, tout à fait.
Alors,
on commence par Lille, hein, bien sûr.
Celui qui reçoit, normal. Hein. Avec Chevalier, bien sûr, dans le but. En défense, il n'y a pas de surprise. Ismaili, côté gauche, Meunier à droite. Mandy remplace Diakité qui est suspendu. Alexandro, c'est au milieu de terrain. On pensait voir un milieu à 3. Il avait dit qu'il allait faire des petits changements. Et finalement, ça sera Bentaleb et André. Pas d'André Gomes, il est sur le banc. Fernandez Pardo à gauche, Haraldsson à droite. Et donc, Jonathan David qui sera en soutien d'Akpom. C'est un peu la même formule que les précédents matchs où Lille a gagné, notamment contre Auxerre. Et la semaine dernière, c'était, j'ai un petit trou de mémoire,
la voix du foot est là.
Avec les choix de Roberto De Zerbi, c'est cool quand même. De Marseille, tu passes par Rome pour venir à Lille. Moi, je trouve que c'est quand même une bonne idée. Roulis dans les buts, une défense à 4, maintenue comme face à Brest, avec Murillo à droite, avec Balerdi et Kondogbia dans l'axe, et avec Garcia sur le côté gauche, de plus en plus titulaire, 4e fois d'affilée. Merlin, lui, sur le banc des remplaçants. Le milieu de terrain avec Bennacer, qui prend donc la place de Rongier par rapport au match de Brest. Il n'avait plus été titulaire depuis le 6 avril dernier, accompagné de Højbjerg et de Rabiot. Et donc côté droit Greenwood, côté gauche Luis Enrique, et le goléador, celui dont De Zerbi veut faire un sniper, qui sort de son triplé face à Brest, et bien Amine Gouiri sera avec son numéro 9, l'attaquant axial. C'est Eric Vatelier qui sera l'arbitre de la rencontre.
Alors le match se dispute à Lille. On a tout de même convoqué notre correspondant à Marseille, Florent Germain. Salut Flo.
Salut les amis.
C'est plus l'Espagne, son truc d'habitude, mais non. Là, il était
d'habitude, ouais, mais bon, un petit peu de Rome, ça se prend quand même.
Alors déjà, on te dit bravo parce que la compo, tu l'avais. Hein. Tu t'en doutais que c'était un bluff de De Zerbi de repasser à 3. Il est bien resté à 4 pour la défense. Hein.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que il savait. Roberto De Zerbi, il écoute. Et d'ailleurs, c'était une petite anecdote que je racontais de mon passage à Rome, c'est qu'on a eu l'occasion, peut-être parce que c'était l'Italie, il savait qu'on avait fait le déplacement, de discuter un petit peu avec lui, plus peut-être qu'on a l'occasion de le faire finalement avant une conf à la Commanderie. Et il nous a glissé qu'il lisait, il écoutait de temps en temps. Enfin, il savait ce qu'on racontait sur l'OM et sur lui. Donc, il est très attentif à la com, et il savait que tout le monde attend en gros une défense à 4. Enfin, on va dire les suiveurs principaux normalement avaient plutôt connaissance d'une défense à 4. Et je pense qu'il a voulu bluffer hier en conférence de presse en disant oh j'hésite, ouais. on verra demain matin. Oui, mon œil, on verra demain matin. Il sait très bien à la veille d'un match comment il va jouer, c'est très clair. Donc il a voulu installer un minimum de doute peut-être dans l'esprit d'adversaire, se souvenant aussi que les Brestois avaient été un petit peu perturbés par ce changement de dernière minute que eux n'attendaient pas en revanche. Ils s'attendaient à une défense à 5, ils sont tombés à une face à une défense à 4 et ça a plutôt marché. Donc moi je l'ai vu comme un coup de bluff. Après on surveillera quand même le positionnement de Luis Enrique sur certaines phases de jeu, les gars, parce que Luis Enrique peut aussi parfois venir prêter main forte quand Lille attaque.
Un mot de Gibo de la dynamique lilloise, parce que Lille s'est remis en ordre de marche dans la course à la Ligue des Champions, et Lille aime bien ce type de match, adore jouer l'OM déjà. Lille historiquement ça marche très bien face à Marseille, mais surtout,
même cette saison c'était pas trop mal.
Ils reviennent en forme au bon moment les Lillois, Djibo.
Ouais, le sprint final, à un moment on a eu un peu peur quand même derrière l'élimination contre Dortmund où ils ont enchaîné des défaites. On a l'impression qu'il allait s'écrouler, et il a réussi à trouver les mots et à relancer son équipe avec un effectif qui bouge pas trop, hein. On voit qu'il y a des garçons comme Haraldsson ou Fernandez Pardo qui sont installés depuis plusieurs matchs. Il a plus de certitude. Son gros point point noir, c'est l'absence de Diakité. Hein. C'est le duo Diakité-Alexandro, c'est l'une des meilleures paires de défense centrale du championnat. C'est peut-être voilà la petite interrogation, même si Mandy tient la route, mais on sait que c'est en dessous. Jeu de tête de Diakité sur les phases arrêtées, on sait qu'il est capable de marquer, il est vraiment dangereux. Donc ça sera une arme offensive un peu en moins sur les coups de pied arrêtés. Mais c'est vrai que dans le sprint final, ils sont là. Il l'avait dit, hein, il était confiant et il a bluffé aussi un petit peu comme De Zerbi, parce qu'avant-hier, lors de la conférence de presse, il dit « je vais changer les choses ». Au final, il a laissé le duo Joe-David en dessous d'Akpom.
Alors on le rappelle, c'est le dernier duel face à un concurrent direct pour l'Olympique de Marseille. Une victoire à Lille donnerait 4 points d'avance sur le quatrième à 2 journées de la fin. Et Marion, c'est l'avis que tu voulais défendre ce soir dans Bartoli Time sur RMC. Pour toi, tout simplement, Roberto De Zerbi joue sa crédibilité ce soir. Tu l'attends sur ce gros match de fin de saison, l'entraîneur italien de l'OM.
Moi j'attends aussi surtout les joueurs et j'attends surtout les cadres en fait sur ce match là on l'a vu contre Brest effectivement. Alors quand t'as Amine Gouiri qui te met une retournée, une bicyclette, et que t'as tout Vélodrome qui se lève comme un seul homme, c'est ce genre d'exploit, c'est ce genre de match qu'on attend de la part de ces joueurs là à ce moment là et je pense que De Zerbi a fait les efforts pour justement faire cette mini-retraite à Rome, ce recentrage autour de l'entraînement seulement, passer du temps ensemble pour arriver à motiver les troupes en leur disant qu'il y avait un sprint final là à les jouer. Le sprint final il se joue là ce soir. Si tu bats Lille ce soir, tu creuses un break qui est quasiment après dans le foot tout peut arriver, mais sans manquer de respect ni au Havre ni à Rennes, je pense que c'est largement faisable ensuite pour Marseille de conserver au minimum le top 3, parce que c'est le top 3, ça a été l'objectif annoncé depuis le début de la saison par De Zerbi, c'est pas d'être deuxième, c'est d'être top 3. Si tu gagnes ce soir, franchement le top 3 il est quasiment assuré. Vous parliez de l'absence de Diakité au match aller sur la 15e journée quand il se joue le 14 décembre, ça fait un partout. C'est Merlin qui ouvre le score à la 17e et c'est Diakité qui égalise à la 87e en toute fin de match. C'est des points aussi comme ça qui se sont perdus pour l'OM pendant la saison et qui font qu'ils sont dans cette situation aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'est à l'entraîneur, mais surtout aux joueurs d'aller chercher ce match, même si encore une fois s'il y a une défaite ou un match nul, ça ne sera pas perdu pour ce top 3. Mais moi j'espère vraiment qu'ils vont montrer la force de caractère de cette équipe. Ils n'ont eu qu'une compétition à jouer depuis pas mal de semaines maintenant, il n'y a plus qu'un seul match par semaine. On les attend effectivement sur ce genre de match.
Jean-Louis, est-ce que tu
es vraiment chez elle? Elle répond pas du tout à la question.
Ouais, bah c'est ça, elle fait ce qu'elle veut.
Si j'ai répondu à la question.
Elle a dit oui.
Elle a dit que j'entendais les joueurs et l'entraîneur.
Après, elle a parlé que des joueurs.
J'ai répondu. Ouais.
Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Louis?
À quelle question, du coup? À ce qu'a dit Marion ou à ta question de base?
À ma question de base. Est-ce que Roberto De Zerbi joue sa crédibilité ce soir?
Non, moi je trouve pas, parce que j'aime pas l'idée qu'un coach joue sa crédibilité sur un match. Moi, en fait, enfin, j'ai pas besoin du match de ce soir pour me faire un avis sur la première saison de De Zerbi. Pour moi, elle est insuffisante sur plein d'aspects qu'on peut développer s'il faut, mais qu'il gagne aujourd'hui ou pas, ça changera rien. Moi, je reste sur ma fin globalement au niveau du jeu, parce que c'est un entraîneur qui a été habitué à bien faire jouer ses équipes, à faire progresser ses joueurs. C'est ce qu'on nous a vendu quand il est arrivé, donc j'attendais beaucoup de ce point de vue là maintenant, si c'est juste un entraîneur pour enregistrer les résultats et valider à la fin la deuxième place éventuelle de l'OM, bon bah c'était pas le contrat de base. Donc c'est pour ça que je mets le débat sur le plan du jeu. Et là-dessus, bon bah j'ai été assez déçu. J'ai pas vu beaucoup de joueurs progresser. J'en ai vu certains même régresser tout au long de la saison. Et rappelons-le, tu l'as dit Marion, mais il a bossé quand même dans des conditions exceptionnelles. C'est-à-dire qu'il a tout eu. Il a eu un recrutement très important l'été dernier avec des joueurs d'expérience, Rabiot, Højbjerg, Greenwood, des joueurs qui connaissent les grands clubs. Cet hiver, ça allait pas. On lui a amener 4 joueurs supplémentaires. Quand il faut partir une semaine en stage pour mobiliser tout le monde, on lui accorde aussi. Bon, il a tout eu. Il a eu un match par semaine sans Ligue des Champions. Donc, il n'y a vraiment aucune excuse pour lui. Et à l'arrivée, la patte de Zerbi, moi, tout au long de la saison, je ne l'ai pas vu. Alors, sans doute, ça, c'est le constat pour moi global de la première saison. Après, peut-être que l'avenir nous dira que c'était une première saison pour construire et que par la suite, etc., on a vu son jeu. Mais en tout cas, pour la première saison, moi, je reste sur ma fin.
C'est vrai que Flo nous a toujours vendu un projet à long terme avec De Zerbi. Donc là, on se dit que s'il va aller dans les champions, on se dira qu'il a fait le job.
Parce que tous les 3 mois, il menace de partir, De Zerbi. Ouais, mais c'est un projet.
On en a parlé ces dernières semaines. Oui, mais la pression autour de son cas et les tensions, les petites tensions en interne, l'excitation globale qu'il y a eu sur certains épisodes me font dire que ce sera quand même un des dossiers de l'été. Que ça ne coule pas de source. Ouais. Moi aujourd'hui je mets pas ma main à couper qu'au minimum il y aura pas un bilan dans lequel on va prendre une décision, alors que on devrait pas se poser la question si c'était un bilan de 3 ans. Bon bah on sait qu'il est là l'été prochain. Là Roberto De Zerbi aura peut-être des demandes. Il est par exemple il estime que défensivement il a pas eu les joueurs peut-être qu'il voulait. Ou hier il a eu une petite phrase qui moi à 3 journées de la fin me surprend un peu, en disant moi les caractéristiques du groupe c'est plus une défense à 5 cette saison. Donc ça veut dire qu'en gros il a pas eu les joueurs pour jouer avec son système préféré, parce qu'il répète en plus que son système préféré c'est celui qu'il met en ce moment là avec un 4-3-3 ou 4-2-3-1, ça dépend. Donc en fait ça veut dire j'ai pas eu les joueurs pour jouer dans mon système préféré, donc il y a un petit souci à régler. On en a parlé, il y a eu des crispations et voilà, il faudra quand même être vigilant sur le mois de juin, quoi qu'il arrive d'ailleurs, qu'il y ait Ligue des Champions ou pas, et encore plus évidemment s'il y avait un échec et qu'il n'y avait pas de podium.
Et juste un petit mot,
ça fait 8 mois que je répète, il n'y a pas de défense à l'OM. On les a tous vus les matchs.
Et juste un petit mot. Donc, par rapport
qui
à l'attitude,
ça, c'est normal.
Marion de Zerbi, hein, puisque on parle beaucoup du ritiro, hein, d'être parti à Rome avant le match contre Brest, avant le match de ce soir contre Lille. Là on vient de le voir prendre le temps au tout début de l'échauffement, d'être au milieu de ses joueurs, d'aller donner un petit mot à chaque titulaire et de repartir là dans le vestiaire comme il vient de le faire et comme il ne le faisait pas avant, en tout cas dans les échauffements traditionnels. Il était toujours un petit peu en retrait sur le bord de la pelouse. Là en tout cas il a pris le temps d'aller les voir et de donner un petit mot à chacun. Après qu'on lui accepte le fait qu'il parte à Rome préparer le match comme ça a été le cas du côté de Miremont en novembre dernier, c'est que l'Olympique de Marseille déjà a les moyens, parce que ça coûte quand même un peu d'argent, et qu'on met les moyens justement pour aller chercher l'objectif. Donc moi
de toute façon Pablo Longoria et Mehdi Benatia disent que c'est eux qui lui ont proposé, donc au moins il n'aura pas à justifier de cela.
Je veux bien les croire, je ne les mets pas en doute, mais je veux bien les croire. Mais après, parce que cet exemple du Retiro, il l'a quand même acquis à l'époque où il avait beaucoup discuté avec le président de Naples, qui faisait ça très souvent, mais tout en restant en Italie. Simplement, moi je pense que ce soir, si Marseille perd, Marseille perd gros, ça c'est une évidence, mais De Zerbi perd beaucoup aussi dans sa crédibilité. Je me positionne là-dessus parce qu'il a eu, et je vais un peu plus au-delà de ce que disait Jean-Louis, il a eu tous les moyens nécessaires de, là aujourd'hui il est devant ses responsabilités. Ça a marché face à Brest, ça doit marcher ce soir ici à Lille.
Flo, qu'est-ce que tu peux nous dire?
Merci, Jeannot, volé à mon secours.
Voilà, en plus, il est d'accord avec moi, ce que vous racontez.
Mais non, il te dit qu'il joue sa crédibilité ce soir.
Mais en plus, c'est une mauvaise foi, mais c'est catastrophique.
Mais vous écoutez pas ce qu'on dit, en fait.
C'est le pouvoir de l'âge, en fait. J'arrive à rééquilibrer.
Oh là là, monsieur. Mais s'il vous plaît, mais faites fuir.
Non, mais.
Bon, mais j'ai plus entendu raison, écoute.
Jeannot et Gibault.
C'est quand même incroyable.
Puisque tu parlais d'échauffement, Jeannot, la semaine dernière, Éric Roy a remarqué pendant l'échauffement que c'était une défense à 4 qui se profilait, c'est-à-dire que les 4 défenseurs en général s'échauffent ensemble.
Donc ouais, là, on n'en est pas encore là pour l'instant. Voilà. Mais je suis d'accord.
Vous pourrez être vigilant et le vérifier peut-être pendant l'échauffement.
Il a 71 ans, Jeannot.
Ouais. Allez, j'ai lu ça.
Allez, c'est bon. Flo, juste un mot, parce que tu étais à Rome donc cette semaine, tu faisais partie des deux suiveurs qui étaient au plus près du groupe de l'OM. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette relation entre joueurs et De Zerbi alors, et le staff? Parce que là aussi on a vu un peu de tension. C'est vrai que Jean-Louis l'a dit, il y a souvent des excuses pour expliquer les contre-performances, il met les joueurs devant leurs responsabilités. Est-ce que les joueurs sont à fond derrière le coach? Comment ça se passe concrètement en interne à l'OM?
Oui, globalement, ce que je disais, même dans une période où ça a été un petit peu plus compliqué, notamment là après Reims, quand il a décidé de prendre du recul sur une ou deux journées d'entraînement, c'était plutôt d'ailleurs pour piquer le groupe. On en a déjà parlé, hein, plus que une mutinerie comme ça a parfois été écrit. Roberto De Zerbi, il a au moins avec lui les leaders de ce vestiaire, ce qui est quand même très important. Il a été dans la gestion avec certains jeunes joueurs. Parfois, il s'est un petit peu agacé. Il a estimé qu'il y avait parfois un manque d'implication chez certains, mais il a quand même voulu globalement protéger aussi certains joueurs, et d'ailleurs ça a été source de tension avec Mehdi Benatia, qui lui aurait aimé plus de fermeté sur le cas de joueurs emblématiques comme Luis Enrique et Mason Greenwood. Lui, pour deux raisons, et surtout une d'ailleurs, c'est le fait que ce sont ses meilleurs buteurs, il n'a pas trop voulu leur rentrer dedans. Donc les joueurs le savent et sont quand même reconnaissants de Roberto De Zerbi, qui a eu quelques peut d'être là, si est là, on pourrait avoir l'impression qu'il se défaussait, mais en interne au quotidien, il a quand même plutôt protégé son groupe et même des joueurs qui étaient un peu dans le viseur des dirigeants.
20h16 sur RMC, Bartoli Time, on lance la grande soirée de foot, ce choc Lille Olympique de Marseille. Est-ce que Roberto De Zerbi joue sa crédibilité sur ce match? Parlons-en avec Greg qui nous rejoint au 32-16.
Salut tout le monde.
Salut Greg.
L'équipe. Merci de m'accueillir.
Salut Greg.
Avec plaisir.
Bienvenue dans Bartoli Time sur RMC.
Merci beaucoup. Ouais, bah, ce soir, bah, on joue gros hein, quand même. Hein. Contre un concurrent direct, on sait qu'à Lille, on réussit pas souvent. Donc voilà, après, tu peux perdre ce soir et être qualifié dans les trois sur les matchs d'après. Hein, si tu gagnes ce soir et que les deux, et que tu perds les deux matchs d'après, voilà, au moins, il ne faut pas perdre ce soir. Et ce qu'on lui a demandé, bah, c'est d'être dans les trois premiers. Pour l'instant, on est dans le lot. Après, bah, ce soir, c'est quand même un gros choc. Il va falloir répondre présent. J'espère que derrière, ça va suivre un peu. Voilà, surtout défensivement, on est un peu poussible. Mais bon, voilà, si on voit les derniers résultats à l'extérieur, on a quand même pris un peu des roustes hein, à Auxerre, à Monaco. Donc, à Reims. Donc, autant la première partie de championnat à l'extérieur, ça tournait bien. Autant la deuxième partie, ça a été très poussible. Et voilà, en espérant ce soir, eh ben, si on peut gagner, eh ben, tant mieux, mais au moins, il ne faut pas perdre. Voilà.
Qu'est-ce que tu penses de la question sur De Zerbi, ouais, vas-y.
On entend beaucoup de choses. Après, voilà, bien sûr, nous, tout ce qu'on espère, c'est qu'il soit c'était annoncé d'être dans la Ligue des Champions. On est encore dans le coup, mais on a notre destin dans les pieds, donc il va falloir. Tu gagnes tes trois matchs, t'es sûr d'être dans le coup, quoi. Donc. Après, est-ce que peut-être le championnat, les résultats, c'est pas joué, c'est peut-être pas ce soir, mais sur les autres matchs, certains matchs à domicile, des points perdus contre Auxerre à domicile, tu prends une roue
Sarrente,
contre Angers, alors là on est encore dans le coup, mais je pense que même si ce soir tu fais un nul, je pense que si même après on perd, ben je pense que le championnat il sera peut-être pas joué sur les trois dernières journées. Mais sur les matchs, sur les points que tu as oubliés en route.
Voilà, donc tu focaliseras pas sur cette fin de saison, mais plutôt sur les points lâchés en route tout au long de ce championnat.
Après, quand tu perds beaucoup de points à domicile...
9 défaites pour l'OM cette saison.
Combien 9 défaites c'est beaucoup. Hein, pour une équipe qui est seconde, c'est quand même... C'est surtout les points perdus à domicile, quoi.
Tiens Greg, reste là parce que je veux entendre ton avis à toi aussi. J'entendrai également celui de Jean-Louis, de Jeannot, de Djibo, de Flo et surtout de Marion parce que c'est Marion qui voulait en parler. Marion, t'as un coup de gueule à passer ce soir.
Contre quoi?
Oui.
Alors dis-nous contre quoi. Vas-y.
J'ai peur.
Alors, vas-y, écoute bien mon Jean-Louis. Il va falloir quand même m'expliquer cette histoire de calendrier. Parce que on le sait tous, de toute façon, avant que le championnat commence quasiment, que le PSG va être champion, elle est à quoi? 8-10 journées avant la fin du championnat. Et comme par hasard, les gros matchs contre les équipes qui peuvent éventuellement accrocher le top 3, et on sait bien quelles sont ces équipes-là.
Pas maintenant.
Ah, si.
Après tout ce que tu as fait, Marion.
Mais attends,
non.
Laisse-moi finir.
Pas avec
laisse-moi
ton objectivité
finir.
Marseillaise.
Laisse-moi
non.
finir.
Non.
Laisse-moi finir. Lyon, Monaco, Lille.
Oui, d'accord, je suis sûr.
OK. D'autres équipes également. Sont bien évidemment se sentent un petit peu fouées. Alors, là où je veux en venir, c'est que le PSG est parfaitement en son droit. Le PSG fait bien évidemment, et c'est complètement logique ce qu'ils font. Ils vont pas aligner l'équipe type, alors qu'ils sont à 3 jours d'une demi-retour de Ligue des Champions, et que le championnat est déjà plié. Donc ça, c'est une évidence que le PSG est totalement dans son droit. Mais moi, ce que je demande dans l'intérêt de la Ligue 1, parce qu'encore une fois, on a eu ces débats depuis le début, pourquoi aujourd'hui DAZN se désengage de la Ligue 1? Pourquoi aujourd'hui il y a énormément de problèmes financiers pour arriver à trouver un diffuseur? C'est parce qu'il y a un manque d'engouement au manque d'intérêt. Et en plus, bien évidemment, aussi du piratage. Si on veut arriver à avoir un engouement un intérêt, c'est quand même plus logique d'essayer d'envisager de mettre des matchs qui sont intéressants, en tout cas avec un enjeu sur la fin de la saison, que de les mettre au milieu.
Mais qu'est-ce
donc,
que Marion,
moi,
pardon,
que,
là.
Que non, Nice ouais. ait pris 3 points et que Strasbourg ait pris 3 points contre le PSG, il n'y a aucun souci. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il va peut-être falloir se reposer les problèmes dans sa globalité sur cette Ligue 1, en se disant pas uniquement c'est parce qu'on a perdu des grandes stars, donc vous comprenez, il n'y a plus personne qui veut la regarder, mais essayer aussi de faire un calendrier un tout petit peu plus logique. Mais après, non, le PSG est parfaitement en son droit.
En début de saison, tu ne peux pas savoir que Strasbourg va jouer l'Europe.
Mais attends.
D'accord, mais tu sais que Lyon, Monaco et Marseille et Lille,
non, mais...
éventuellement, ils peuvent la jouer quand même.
Non, mais Marion, c'est
quand
pas
même
sérieux,
un tout petit peu envisageable.
Non, mais là, c'était.
Attends,
Gilbert Dubois, qui peut croire que Strasbourg peut jouer une Ligue des Champions?
Non, mais attendez, là, je refuse d'y croire. Là, c'est un canular.
Je te parle pas, je te parle de Lyon, de Monaco et de Lille.
Non, mais là, c'est une camarade.
C'est bien qu'ils vont éventuellement jouer.
Marion est une femme libre, elle dit ce qu'elle veut, Jean-Louis.
Non, mais c'est vrai.
D'abord, pour commencer, bien évidemment. Et en plus, c'est vrai que j'ai raison.
Ah non, là, pas du tout. Alors là, pas du tout. C'est-à-dire que.
L'OM dérange, Marion. L'OM dérange.
Attends, Marion. C'est-à-dire que, en début de saison, rappelez-vous quand même les discours en début de saison. Quand le calendrier est tombé, qu'est-ce qu'on disait? Est-ce qu'une personne a dit le PSG, vous verrez, sera champion à 6 ou 7 journées de la fin? Non, à l'époque, tout le monde disait le PSG est prenable, il va y avoir une lutte pour le titre, c'est l'année ou jamais, il n'y a plus Mbappé, il n'y a plus de stars, etc. C'était ça l'état d'esprit en début de saison. Donc à ce moment-là, bravo d'avoir mis des gros matchs en fin de saison. On va se régaler, il va y avoir une fin de championnat serrée, etc. Je ne comprends pas du tout ton raisonnement, Marion, là-dessus. Il y a un calendrier qui est fait avec du hasard. Et bah tiens, on faisait la liste. Des excuses.
De quoi, ils sont partis avec 4 joueurs de 18 ans pour aller jouer contre Strasbourg, s'il te plaît.
Mais t'as dit toi-même qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent.
T'as vu l'équipe qu'ils ont envoyée. Bah oui, mais d'accord. Mais d'accord, mais quand tu réfléchis à un calendrier, essaye de faire un peu mieux.
Mais non, Marion,
Arsenal, ils ont joué avec leur équipe type ce week-end. Hein.
Évidemment que tu mets les gros.
Ils ont perdu.
Les gros matchs en fin de saison, c'est les gros matchs en fin de saison, justement, ça met du suspense. Non, mais franchement, Marion, t'as passé l'année à nous chercher des excuses pour défendre la saison de l'OM entre l'arbitrage, les joueurs pas motivés, le recrutement, etc. Donc on doit rajouter le PSG qui biaise la course à la Coupe d'Europe. Non, mais quand même.
Je te dis pas que pour Marseille, je te parle que pour Lyon, pour Monaco et pour Lille, c'est un désavantage. Je me dis pas le contraire.
Ça change rien. Le match contre Nice, quelle est la compo du PSG?
C'est l'équipe type.
L'équipe type qui joue contre Arsenal. Et Nice gagne quand même ce match. Donc qu'est-ce qu'ils doivent faire, les Parisiens? Ils doivent supprimer la Ligue des Champions. Ils doivent supprimer le match d'Arsenal. Qui mettent les titulaires, ils perdent. Qui mettent les U18, là, ils perdent aussi. Donc qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent?
Ça fait plus de 2 ans qu'ils n'ont pas perdu 2 fois en Ligue 1 de manière consécutive.
Après, tu peux pas mettre non plus les U18. Faut pas tomber dans le délire. Non, mais attendez, il y a des règlements.
Mais donc, qu'aurait dû faire le PSG pour ne pas biaiser la Ligue?
Mais le PSG, rien.
Bon,
mais je te dis pas le PSG.
Paris les respecte. Avec des joueurs qui sont.
Je te dis que le PSG n'a rien à se reprocher. Je te parle pas du PSG. Je te parle de la Ligue 1 dans sa globalité.
C'est le principe d'un championnat qui n'est pas une équité parfaite. Il y a eu des. Alors regarde, Le Havre, Auxerre a peut-être biaisé la course au maintien. Auxerre, ils n'ont plus rien à jouer. Ils ont perdu à domicile contre Le Havre parce qu'ils se sont relâchés en fin de match. Bon, bah là, personne crie au scandale pour ça. C'est la vérité d'un championnat avec des hasards. Parfois, tu joues une équipe qui a son meilleur joueur qui est blessé. Bah oui, c'est pas équitable sur l'ensemble d'un championnat. Mais ça dure 38 journées ou 34 maintenant. C'est le principe d'un championnat.
Non, mais pour comprendre ce que veut dire Marion, c'est que on
ils ont joué en marchant contre Nice, s'il te plaît.
Marion, elle agit comme une supportrice qui a l'impression qu'il y a 3 points qui ont été laissés à Strasbourg.
Non, le truc,
mais
c'est dire,
c'est vrai, mais il faut vivre avec cette injustice. C'est la vie d'un championnat.
Et 4 gamins de nés en 2006 ou après, c'est sûr que c'est différent, tu vois.
Il y a quand même un manque de respect.
Donc il faut rajouter ce paramètre-là en début de saison quand tu fais le calendrier.
Rajouter, mais tu peux comprendre que les supporters
se disent
c'est dur. Tu vois.
Mais c'est une injustice, c'est une frustration à digérer, mais qui est faite du hasard.
C'est une frustration.
C'est une frustration.
C'est une gestion effective de la part de Luis Enrique, qui en plus est dans l'obligation de respecter le règlement, où des joueurs qui ont été titulaires ont l'obligation d'être sur les feuilles de match précédemment sans être titulaires. Donc il a mis 3 jeunes joueurs parce qu'il pouvait le faire, et après il est dans sa liberté de choix d'entraîneur en pensant quand même à une demi-finale retour.
Si Marseille avait été à la place de Strasbourg.
Mais on aurait tous fait ça.
Non, mais t'aurais crié au scandale pareil, à l'injustice.
Mais je te dis qu'il y a d'autres équipes comme Lyon, comme Monaco et comme Lille qui sont biaisées aussi.
Ils ont fait autre chose en 93. Non, pardon.
Et tout le monde est toujours lésé dans ces cas-là. Et dans la saison, il y a des matchs au Brest où Brest a fait tourner avant la Ligue des Champions, où Lille a fait tourner, les adversaires en ont profité. Personne n'a crié au scandale pour ça.
Moi je te dis que dans la Ligue 1 aujourd'hui, il n'y a plus personne qui regarde. Faudrait peut-être y repenser quand même un tout petit peu au calendrier, parce que ça n'a plus aucun intérêt.
Je m'en doutais que ça.
Il
n'y
a pas une
échelle. Évidemment.
Les gens ne regardent pas ta zone à cause de ça,
sans enjeu.
Non, mais quand même.
Juste, Florent,
il n'y a pas que ça, mais ça en fait partie.
On est énervé après ce qui s'est passé hier côté parisien ou même pas?
Non, je pense pas, honnêtement. D'ailleurs, le sujet n'a pas été abordé hier en conférence de presse. Alors que. Paris venait de perdre contre Strasbourg, ça aurait très bien pu être le cas. On verra, hein, c'est peut-être que je me trompe et que les dirigeants, joueurs ou l'entraîneur pourraient en parler dans les jours qui viennent. Mais moi, j'ai pas ce sentiment-là, Marion, que à Marseille on cible les compos ou l'attitude du PSG.
Ils sont plutôt inquiets
de ce qui va se passer en demi-finale retour, en finale de Ligue des Champions, que des compos de Paris en Ligue 1, honnêtement. Marseille avait les cartes en main, quoi qu'il arrive, pour ne pas s'inquiéter à 3-4 journées de la fin de quel joueur allait aligner Luis Enrique, honnêtement.
Exactement. Mais encore une fois, qu'on soit bien d'accord dans le débat. Marseille a complètement son destin entre les mains et ils n'ont pas, entre guillemets, à voir si le PSG laisse des points ou pas, c'est pas leur problème, de 1, et le PSG parfaitement dans son droit, de 2. On soit bien d'accord là-dessus. Je dis rien sur l'attitude du PSG. Par contre, ce que je dis encore une fois, c'est quand tu vois un produit, t'es obligé d'essayer de le mettre le plus en valeur possible. C'est pas ce qui est fait.
Tu commences. Alors attends, écoute, Marion, en début de saison,
on sait très bien qu'un Classico, c'est quand même beaucoup intéressé, non?
Marion,
tu penses pas qu'un Classico, c'est quand même un match qui intéresse?
Mais oui, bien sûr. En début de saison, donc la Ligue doit dire, écoutez, le PSG va être champion à 7 journées de la fin, donc on a enlevé toutes les grosses affiches du PSG dans les 7 dernières journées. C'est ça que tu voulais qu'on fasse? J'essaie de comprendre ton raisonnement.
Joue avec une équipe qui va aller loin en C1. Okay. Donc généralement, s'ils essaient d'aller loin en C1, et comme depuis beaucoup d'années ils sont champions quand même assez longtemps à l'avance, tu te dis qu'éventuellement tu essayes de placer des pas à chaque semaine, à chaque week-end, que des grands matchs sur la fin, parce que ça serait désavantager le PSG, mais tu essaies d'en prévoir quelques-uns, notamment un classique où ça intéresse quand même pas mal de gens en France et même parfois à l'étranger. Donc quand tu vois que c'est un produit qui est dévalué,
ça peut être la semaine prochaine en Espagne par exemple. Ça c'est vrai.
Je comprends pas, tu voulais faire quoi, Marion? Il y a un classique qui intéresse, c'est-à-dire
t'as un classico en Espagne qui est très loin dans la saison, ça intéresse quand même plus les gens si tu les mets en janvier ou en février.
Donc t'aurais voulu un PSG Marseille,
faut juste réfléchir.
Un match de Ligue des Champions,
mais c'est même pas PSG Marseille, il faut pas se focaliser sur Marseille. Je te parle des gros matchs qui intéressent.
Mais tu me parles d'un classique, je vais essayer de te comprendre,
parce que c'est des gros matchs. Et parce que c'est un gros match.
Oui, d'accord.
Donc voilà, oui, c'est un classique, mais même si tu enlèves le parti supportrice et que tu dis froidement quand tu analyses un produit, tu essaies quand même de le vendre le mieux possible, surtout maintenant que personne en veut.
Mais en fin de saison, je comprends pas.
Mais oui, en fin de saison, pourquoi la Ligue le fait?
Et ben là, il y avait PSG Strasbourg et PSG Nice, et ça te va pas?
Ouais, super, PSG Strasbourg.
Alors, génial. Bravo Marion,
beaucoup de gens vont regarder.
Tu as agité Jean-Louis Tour pour une grande soirée de foot sur RMC.
Voilà,
c'est Lille OM ce soir, 20h45. Un grand merci à Flo Germain, bon match à Marseille. Hein.
Bon match, les amis.
On se retrouve demain pour le
débrief. Bon voyage à Rome. On verra s'il faut retourner à Rome la semaine prochaine ou pas.
Reste sur les sites de réservation.
Prends l'abonnement sur la ligne, prends Marseille Rome en abonnement.
On verra ça. Bon match.
C'est du Ryanair, ça va.
Bon match à Jean Baumel, bon match à Jean-Louis Séguier, bon match à Jean-Louis Tour.
Dimanche soir avec Marion, là, c'est terrible, c'est le dernier match décalé du dimanche soir.
Tu peux venir pour refaire des débats foot, c'est pas fini.
Avec plaisir.
Avec plaisir.
On peut faire un coucou le samedi prochain et samedi d'après. Hein.
Ouais, pourquoi pas.
C'est pas interdit,
c'est vrai. Bon, non, on s'est régalé avec vous en tout cas, et puis un grand match vous attend, ce Lille-Marseille, 32e journée de Ligue 1. Coup d'envoi 20h45, Marion.
Oui, coup d'envoi 20h45, vous l'avez vu, c'est animé, mais je vous laisse dans les mains experts de Jean-Louis parce qu'il connaît beaucoup mieux le foot que moi. On verra bien comment ça va se passer ce soir et comment ce championnat va se terminer. Qui sera dans les trois premiers? C'est la grande question avant la fin. En tout cas, moi, je vous souhaite un excellent fin de dimanche, une excellente semaine à tous, bien évidemment. Et puis, je vous retrouve dimanche prochain, même endroit, même heure, 19h30 sur RMC. Merci Benoît et merci à tous. À la semaine prochaine. Au revoir les amis.